Il est midi, vous êtes à l'écoute de France Culture. Nous retrouvons tout de suite Olivia Gesbert. Olivia, bonjour.
Bonjour, et on va commencer comme tous les jours par un point sur l'information. Il est pressé, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. François Hollande esquisse en ce moment l'idée d'une nouvelle candidature. Il prononce un discours dans le cadre d'une rencontre avec la Fondation Jean Jaurès sur le thème « Démocratie et terrorisme ». La démocratie sera plus forte que la barbarie qui lui a déclaré la guerre, vient d'affirmer le chef de l'État, compte rendu de cette intervention tout à l'heure avec Ludovic Piétenu. Le gouvernement annoncera demain les contours d'un geste fiscal qui a été annoncé dans le budget 2017 avec une mesure pour les ménages et des mesures pour les entreprises, annonce faite ce matin par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, s'étonne ce matin des méthodes qu'elle qualifie d'un peu brutales du constructeur de matériel de transport Alstom, lequel annonçait hier l'arrêt de sa production de trains sur son site historique de Belfort. Analyse de la situation avec Jean-Marc Chardon. Et puis la grève dans l'éducation nationale aujourd'hui contre la réforme du collège, les conditions aussi de la rentrée scolaire. Les syndicats craignent notamment une mise en concurrence des matières et des collèges, voire un grignotage des horaires des disciplines. Suivi du mouvement avec Hakim Kasmi, l'invité du journal, ce sera le philosophe Michel Terechtchenko, avec qui nous parlerons notamment du discours de François Hollande en ce moment à la Fondation Jean Jaurès. Voilà donc pour les titres, c'est à vous Olivia Gesbert pour la Grande Table.
Un grand merci Antoine Mercier, on vous retrouve à 12h30 pour développer tous ces titres ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans la Grande Table de France Culture. Ce jeudi, de la photographie à la démocratie, avec dans la deuxième partie de la Grande Table, à l'heure où François Hollande terminera son discours sur la démocratie face au terrorisme, un questionnement parallèle, celui d'un philosophe, Florent Guénard, qui publie aujourd'hui « La démocratie universelle, philosophie d'un modèle politique au seuil » et notre invité. Comment l'exporter, la démocratie, sans l'imposer? Est-elle un modèle politique à sens unique? On en discutera à partir de 12h55. Mais d'abord, l'œil de Sabine Weiss, la photographe suisse, est notre invitée dans cette première partie de la Grande Table, une invitée en noir et blanc, mais surtout tout en couleur. On va pouvoir discuter avec elle de l'exposition qu'elle présente actuellement à Tours. Et on retrouve en fin de cette première partie, notre partenaire du jeudi, François V du Parisien Magazine. Bienvenue à tous.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Elle a fait l'école des grands, Robert Doisneau, Willy Ronis, Brassailles. Dernière représentante de l'école humaniste, Sabine Weiss a tout photographié, ou presque. Publicité, presse, photos de rue ou portraits d'artistes, reportages au ras du bitume et aux quatre vents. Elle a surtout suivi très vite sa propre voie, beaucoup plus personnelle, au rythme des voyages, des rencontres et surtout de ses émotions. Elle s'expose actuellement au château de Tours avec l'aide du Jeu de Paume jusqu'au 30 octobre. Et vous serez également à la fin du mois l'invité d'honneur du festival Confrontatio Photo dans l'Ain. Bonjour Sabine Weiss.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous dévoilez vos archives personnelles à Tours. Alors on vous imagine tout de suite en train de fouiller dans des dizaines de grandes malles stockées au grenier de votre maison pour en ressortir des clichés oubliés. Alors qu'en fait, ça s'est fait comment? Comment vous archivez vos photos, votre travail, Sabine Weiss?
D'abord, je veux dire, c'est pas moi qui ai fouillé dans toutes ces archives. J'ai laissé faire Virginie Chardin. Et
qui est Virginie Chardin?
Pardon?
Qui est-ce?
C'est une jeune femme charmante qui fait ça merveilleusement bien.
Qui travaille avec vous et qui vous connaît?
Non, elle est tout à fait indépendante. D'accord. Elle avait été mandatée par le Jeu de Paume pour faire cette recherche. J'ai évidemment hurlé en voyant qu'elle touchait à tout et qu'elle et tout le temps elle prenait des photos avec son petit appareil tout petit. Finalement, j'ai dit. Il faut que je lui fasse confiance. C'est trop pour moi de tout toucher, tout revoir. Et elle a fait ça très bien. Évidemment qu'il y a toujours des manques. On se dit toujours pourquoi elle n'a pas mis ça, pourquoi est-ce qu'elle. Bon, mais enfin, j'étais très très heureuse de la collaboration avec Virginie.
C'est pas facile pour vous, Sabine Weiss, de faire confiance?
Non, pas du tout, pas facile du tout, parce que j'ai commencé la photographie en 42 Et je n'ai jamais eu personne, ni assistant, ni personne, sauf pour les tirages. Mais autrement, j'ai toujours travaillé toute seule. Et personne ne s'est jamais mêlé de mes rangements, de mes archives, qui est assez bien tenu quand même.
Mais pourtant, la confiance, c'est le socle de la relation entre le photographe et celui qui se fait photographier, non?
Ah non, ça c'est différent. On ne leur demande pas leur avis, les gens qui se font photographier. On les prend sur le fait. Il y en a qui ne savent même pas que je les ai photographiés. Et les gens qui sont connus, qui voient que je les photographie, ils sont bien contents d'être photographiés d'ailleurs.
Et ils vous font confiance.
Et ils me font confiance. Mmh. Quelqu'un ne m'avait pas fait confiance. C'était une photo avec Catherine Deneuve. Et alors, ça se passait au Ritz. Et j'ai attendu des heures qu'on la maquille. Et après, elle m'a dit, dépêchez-vous. Et vous me montrerez les photos. Moi, évidemment que je n'ai pas montré les photos.
Elle est comme ça, Catherine Deneuve. Oui, elle ne fait pas facilement confiance, hein, visiblement.
C'est pas toujours. Personne ne demande ça, mais elle avait demandé. Mais je n'ai pas...
Vous n'avez pas obéi.
Non.
Voilà, rebelle.
Non. Je ne suis pas début. Tellement non. rebelle, mais quand même.
Indisciplinée.
Oui.
Comme je vous comprends. Cet archivage, comment vous le réalisez? Parce que Virginie est allée fouiller dans vos archives avec votre consentement tardif, mais mutuel.
Oui.
Comment vous avez classé vos photos? Est-ce qu'elles le sont par époque, par couleur, par figure?
Alors, je parle surtout du noir et blanc parce que la couleur, j'ai pas encore eu le temps de me plonger du tout dedans. C'est tellement long de regarder des diapos que je m'en suis absolument pas occupée. C'est dans des grands tiroirs et c'est comme ça. Quant au noir et blanc, bon, il y a c'est chronologique. J'ai un carnet où je marque ce que j'ai fait. Et c'est facile. Mais ce qui était surtout difficile pour moi vis-à-vis de Virginie Jardin, c'est qu'ils ont sorti toutes les parutions que j'avais entassées au haut d'une armoire, qui me touchaient pas du tout. Ces journaux que les magazines m'envoyaient étaient le témoignage de ce que j'avais fait. Parce que j'étais pas du tout avide de les montrer de succès. J'avais un mari qui était peintre, donc c'est lui qui devait montrer ses photos. C'est beaucoup plus difficile pour un peintre. Pour moi, on les voyait tout le temps. J'avais une agence qui les plaçait pour des articles, des couvertures de livres, des tas de choses différentes.
Et vous gardez tout? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile avec le numérique, et notamment les appareils photo. Il suffit d'appuyer sur la petite poubelle pour enlever une photo qui ne nous plaît pas. Vous avez gardé absolument tout? Vos tirages, vos négatifs?
Ah non, les négatifs, oui, je garde tout, sauf ceux qu'on prête pour une raison ou une autre et qu'on ne vous rend pas.
C'est comme les livres.
Dix ans après, on dit, mais ensuite, je n'ai pas les négatifs. Non, mais ici, il y a tous les négatifs et de la plupart des planches de contact qui sont tracées où j'ai fait mon choix avec des gros marqueurs de laboratoire sur les plastiques. Et ça, je les garde.
L'archivage, c'est quand même un travail sur le temps, c'est aussi un travail sur la mémoire. Vous ne pensez pas, Sabine Weiss?
C'est bien, mais c'est utile si on les re-regarde. Et ça, c'est tellement long. Virginia est venue pour choisir, elle a commencé à regarder des planches de contact. Et quand elle a vu, après 3 jours de travail, qu'elle était en 1946 ou je ne sais plus quelle date, elle a renoncé à faire ça comme ça. Et c'est là qu'elle est repartie de justificatifs de choses imprimées dans les revues.
Quand vous avez revu ces photographies qui couvrent surtout, on va dire, les années 50, hein, celles que vous exposez actuellement à Tours, est-ce qu'il y a des photos que vous aviez complètement oubliées et que vous avez redécouvertes à cette occasion?
Oui, évidemment qu'il y en a, et il y en a encore que je découvre. Là, je commençais un travail que j'ai la flemme de faire, mais de regarder ces planches de contact et de rejuger. Mais finalement, mon choix de l'époque, qui était supervisé par mon mari, avec qui je m'entendais très très bien, et je critiquais ses peintures, il critiquait mes photos, ou les louait quelquefois. Je sais, non, j'ai une photo que je disais, ah non, non, bah écoutez, c'est justement la photo qui est sur ce livre de l'exposition à Tours. Et je disais, j'aimais pas du tout cette photo. Mon mari me disait, mais celle-ci, elle est très bien. Et moi, je trouvais que ça faisait un peu photo de club photo, la belle photo qu'on montre au club, qui était bien reçue. Et finalement, c'est une photo qui plaît à tout le monde et qui a du succès.
On aime bien les choses propres quand même, hein, les belles photos, il n'y a pas de raison de s'en priver. Cette époque, Sabine Weiss, les années 50 que vous exposez actuellement à Tours, était d'abord le portrait d'une époque. Et ce n'est pas pour rien que le MoMA, vous avez regroupé, vous, les photographes européens, dans une exposition en 53 qui était intitulée « Post-War European Photography ». Dans le quotidien, les effets de la guerre étaient encore visibles à ce moment-là.
Non, mais moi, je ne touchais pas du tout. Comme vous avez dit au début, que j'étais suisse, mais je suis française. Et je suis aussi de mère française.
Et vous avez gardé la nationalité suisse. Vous êtes franco-suisse.
Oui, on ne oui. la renie pas.
Bah non, écoutez. Y a pas de raison.
Non,
oui, on était sur la guerre. Vous me dites que comme vous étiez suisse et que vous êtes devenue
française...
On était
très peu touchés. Ouais. J'étais à Genève, il y avait très très peu de choses. Beaucoup de choses se passaient aux frontières qu'on ne connaissait pas.
Vous arrivez en France après la guerre?
Je suis arrivée en 1946, dès que j'ai pu. Mmh. Ils ont ouvert les frontières et hop.
Et alors ce pays que vous découvrez, que vous allez photographier,
je connaissais déjà un peu Paris parce que j'y allais de temps en temps avec ma famille pour les grandes expositions. Et non, mais j'ai quitté des amours insolubles, donc je savais que je ne reviendrais pas à Genève. Je n'avais pas dit ça à mon père pour pas le chagriner, mais
du coup vous avez trouvé un amour français.
Ah, non, il était américain.
Même pas, il était américain, oui, pardon. Sabine Weiss, cette époque, du coup, que vous avez peut-être moins photographié, était, alors, à vous entendre, plutôt quoi, une époque propice aux rencontres. On retrouve dans cette exposition et dans le livre qui en rencontre, pardon, André Breton, Alberto Giacometti, Nikita Saint-Phal, Léo Ferrer, Roger Planchon. C'était d'abord des amis ou c'était seulement des modèles?
Il y en a qui étaient des amis, comme Giacometti, mais il y en a qui n'étaient pas des amis, mais c'était d'abord c'était des commandes. Breton, c'était pour une revue je trouve plus le nom dont j'avais fait avec Alberto Giacometti la première de c'est pas bon bref.
Donc c'était des commandes d'abord.
Excusez-moi, j'ai 92 ans et
oui,
je perds quelques fois.
Moi, ça m'arrive à peine 40 ans, alors vous inquiétez pas.
Non, mais c'était très facile à l'époque de contacter les gens. Vous alliez dans un concert quelque part, on allait dans les coulisses. Moi, j'allais dans les coulisses. Mon mari était dans la salle, moi, j'étais toujours dans les coulisses. J'ai fait d'ailleurs un livre sur le théâtre. J'ai fait beaucoup de choses sur les enregistrements de disques pour Pathé Marconi, EMI, des choses comme ça, des couvertures.
Alors certains, c'était juste des commandes. Et puis, il y a eu des amis quand même parmi tous ces sujets photographiés. Il y en a qui sont devenus des proches et qui vous ont beaucoup influencé.
Influencé, je veux pas dire influencé. Et non, je voyais pas de photographe. J'ai rencontré Doineau, oui, ça, qui a fait beaucoup de choses merveilleuses pour moi. Il m'a fait rentrer à l'agence, il a dit du bien de mes photos. J'ai tout de suite été engagée à Vogue pour les photos de mode parce qu'il trouvait ça que je faisais des choses bien. Mais le reste de ce que je faisais pour moi, il n'y a pas de date. Que je le fasse c'était quelle année? C'était les années 50, 52, mais c'est tout ça, toutes ces années. Ou que je le fasse 30 ans après, c'est le même regard. Alors, que vous ouvrez la
là, il y a cette photo d'André Breton, hein, un peu engoncé comme ça dans son grand fauteuil en cuir.
Oui, j'avais été. Je ne sais pas, c'était un reportage que je devais faire sur une certaine partie de sa collection.
Qui est incroyable, qu'il avait des choses, hein, de masques africains.
Et quand je suis arrivée, il m'a dit pas de photo de moi, pas de photo de moi.
Mais après, on ne le voit pas très à l'aise.
Après,
il s'en est donné
juste
à cœur joie.
Une, encore une. Pourquoi pas là? C'était.
Un gourmand.
Voilà, virement, c'est...
Là, il y a la photo de Giacometti.
Oui, alors Giacometti, je le connaissais déjà à Genève, où il était réfugié pendant la guerre. Et je te connaissais sa femme. Et...
La toute jeune Françoise Sagan.
Ça, c'était une demande pour Vogue.
Alors, il y a une photo qui m'intrigue, c'est celle-ci, celle de Karen Blixen.
Oui.
Oui, je ne sais pas si vous... Alors, je vais encore faire appel à votre mémoire, mais elle date de 1955, cette photo. Karen Blixen, la baronne danoise, hein, l'auteur de La ferme africaine devenue au cinéma Out of Africa. Elle est alitée, un livre à la main. Vous vous souvenez de l'histoire ou du contexte
Madame
de cette
Isaac
photo
Dinesen. Oui, eh bien, écoutez, je ne sais plus pour à quel propos je voulais la photographier. Mais c'était facile, on demandait à quelqu'un qui s'y connaissait son numéro de téléphone, on téléphonait, on allait. C'était au Danemark, je crois.
Et cette femme exubérante, voyageuse,
elle était, là, elle
forte,
était pas exubérante.
Non,
pas,
elle est justement alitée.
Oui, elle était alitée, elle n'était pas bien. Je crois qu'après, elle a été beaucoup mieux, elle s'est remise.
Et elle se laisse photographier. Vous voyez la confiance, on en revient à ce rapport
qu'on
évoquait.
Les gens étaient confiants dans le photographe.
En tout cas, en vous.
Oui.
Vous avez évoqué Robert Doisneau qui nous parle de ce que c'est qu'avoir la fibre sociale. Écoutez-le.
Voilà. C'est pas un rôle de composition, hein. Alors attendez, Sabine, vous êtes comme ça. Je mesure sur vous. Oui, c'est ça, 15e. Voilà, on fait comme ça. C'est ça. Pas mal. Oh là là, quelle belle photo. C'est très bien. Encore une fois, va.
Est-ce que vous aviez l'impression que dans votre photographie, il y avait une démarche un peu, disons, sociale et presque politique?
Mais c'est tout à fait vrai, hein. C'est tout à fait vrai. Quand on a cette coupe histologique de la société, à moins d'être partiellement cynique, on ne peut faire autrement que de garder en souvenir les conditions de vie de ceux qui se lèvent tôt, qui prennent le métro éreinté, qui font un boulot répétitif, pas marrant. Et de là à avoir envie que ça change, il n'y a qu'un pas à faire. Ah ben oui, bien sûr. Mais je n'oublie jamais les gens qui travaillent. J'y pense très très souvent. Je comprends de temps en temps les mouvements de révolte et ces grandes bagarres à coups de boulon. Je prends parti, évidemment, bien sûr. Je ne peux pas faire autrement.
Robert Doisneau au micro de Dominique Rousset en 1985 et Sabine qui se fait photographier au début de ce qu'on vient d'entendre. Ce n'est pas vous, c'est Sabine Azéma dans une mise en scène donc sous l'œil du photographe Robert Doisneau. La photographie prend forcément parti pour vous aussi, Sabine Weiss, comme vient de l'évoquer Robert Doisneau, la photographie ou le photographe?
Oui, mais enfin c'est involontaire, c'est simplement tout ce qui me touche que je photographie. Évidemment que la pauvreté, la solitude surtout me touchait beaucoup. Mais c'est dans les photographies beaucoup plus récentes, c'est la même chose. C'était pas une démarche volontaire de témoignage, c'était simplement ce que je ressentais.
Mais vous n'aimez pas trop qu'on vous classe dans des boîtes, dans des catégories, mais on vous présente quand même comme une photographe humaniste. Ce mot-là veut dire quelque chose encore pour vous?
Oh ben, dans le fond, je suis très contente d'être humaniste. Oui, mais j'aime beaucoup mieux qu'on me traite d'artisan. Car la photographie, tout ce que je faisais, je répondais à des demandes de publicité, de mode, de vraiment tout genre.
Là, c'est plus artisan, c'est mercenaire. Vous étiez une mercenaire de la photo.
Mercenaire, je ne sais pas. Non, artisan. Il y avait une chose, il y avait beaucoup de choses à préparer. C'était un travail sérieux, voulu. Alors que toutes les choses qui me touchaient étaient vraiment prises complètement sur le vif. Toutes mes photographies sont des instantanées. Il n'y a jamais de photos montées, voulues, attendues. Une fois, j'ai attendu pour une photo, c'était en Inde. Le lieu était merveilleux. Il y a des bougies, des choses. Je me suis dit, il va y avoir quelque chose de mieux. J'ai attendu, c'est la seule fois. Je m'ai attendu peut-être même une un quart d'heure ou une demi-heure, je ne sais pas. Et il y a un petit enfant qui est venu prier, qui m'a beaucoup touchée.
Mais alors vous dites artisan plutôt que artiste. En même temps, ça fait de la photographie un art mineur, si on considère que le photographe est
pourquoi
un artisan plus qu'un artiste.
Pourquoi un artisan, un ébéniste, c'est merveilleux. Un joaillier fait des merveilles, fait des... Non, je ne trouve pas du tout dénigrant comme artisan.
Qu'est-ce que vous vouliez donner à voir dans ces années-là, dans les années 50, qui sont principalement exposées à Tours avec le Jeu de Paume?
Moi, je les ai laissés faire leur choix. Hein. C'est pas moi du tout.
Il y a beaucoup de choses. Photos, c'était vous.
Pardon.
Mais les photos, c'était vous et
les
ce sont vos photos.
Les photos, c'était moi, oui. Enfin, je suis contente parce que jamais je n'avais montré de la mode ou un petit peu de publicité dans d'autres lieux. Donc, c'était inconnu que je travaillais énormément. Ça, j'ai sur la conscience d'avoir énormément travaillé.
Il y avait effectivement des photos de mode, des portraits d'artistes, mais il y avait énormément aussi, où il y a beaucoup dans ces photos, de scènes de la vie quotidienne. Hein. L'enfance, la fête, les mariages, et puis bien sûr le travail que vous avez photographié. Le travail, cette valeur, mais surtout ceux qui l'exercent, les ouvriers.
J'ai pas du tout été la photographe des artisans, moi. J'étais artisan moi-même.
Vous ne retrouvez pas dans ces photos?
Comment ?
Celles qu'on est en train de feuilleter, quand vous voyez ces photos justement
ben oui,
du quotidien.
Je les vois de loin, oui. Là, oui, oui. Oh, ben, je les reconnais,
ça
oui.
Ça me plaît d'avoir l'impression de vous remontrer vos photos.
Je les aime presque toutes.
On va les regarder ensemble pendant qu'on écoute un tout petit moment de musique. Il est midi 21 sur France Culture. Écoutez, c'est pour vous, Sabine Weiss. D'Angel Olsen avec Heart Shaped Face, dernier album, extrait de son dernier album My Woman. Elle sera en concert le 4 novembre à la Gaîté Lyrique. Angel Olsen chante La Femme, et c'est pour vous, Sabine Weiss, être la femme dans un monde d'hommes, celui de la photographie française des années 50. Vous l'avez vécu comme un élément distinctif qui vous a permis de développer un regard plus personnel, suivre une voie différente?
Le fait que j'ai été une femme et non un homme n'a absolument rien changé dans ma démarche, dans mon approche des gens. Rien du tout.
Rien?
Non.
Quand vous compariez avec vos confrères, collègues, photographes, Robert Doisneau,
je ne voyais pas de collègues, à part Doisneau et un peu Villironis ou quelques photographes, mais les autres, je ne... D'abord, il faut bien se dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'expositions, on avait moins d'occasions de se rencontrer, et je travaillais tellement que je n'avais pas beaucoup de temps
à consacrer à ces
aller
rencontres.
Voir faire des relations, je sais pas. Puis ça s'est pas fait comme ça. J'avais mes amis étaient tous des peintres.
plus que des photographes.
Ah oui,
des peintres ou des écrivains. Et les gens que vous rencontriez. Je vous présente Sabine Weiss, François V, qui est à nos côtés et qui vient tous les jeudis nous livrer ses coups de cœur en partenariat avec le Parisien Magazine que vous rédactez. Bonjour François.
Bonjour Olivia, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, ce jeudi, une révélation américaine et deux petites expositions parisiennes.
Oui, je voudrais vous parler du premier roman d'une américaine d'origine camerounaise. Elle s'appelle Imbolo Mbue. Ce roman s'intitule « Voici venir les rêveurs » et il a été publié chez Belfond. Les grands éditeurs américains se sont véritablement disputés le manuscrit de cette jeune femme de 33 ans. Et finalement, c'est Random House qui a remporté la mise en déboursant 1 million de dollars pour pouvoir publier ce récit d'une inconnue.
Complètement inconnue. Alors, comment c'est possible ?
Écoutez, c'est vrai que ça semble incroyable. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est l'extraordinaire réussite de Imbolo Mbue, parce que ça repose beaucoup sur son style, sur son ton, sur l'originalité de ce qu'elle offre, parce que c'est l'histoire d'un couple de Camerounais émigrés aux États-Unis pour qui le rêve américain tourne au cauchemar. Ensuite, son livre s'avère très réussi, car il traite avec beaucoup de finesse, de subtilité, du choc que constitue pour deux Africains, quelque peu candides mais ambitieux, la rencontre avec un couple de richissimes Américains qui les emploie comme chauffeurs et comme gouvernantes. Leurs rapports deviennent très intimes, ils se ressemblent beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer, et en même temps ils vont se faire un mal terrible. Après, Imbolo Mbue est diplômée de l'université Columbia. Elle a vécu 10 ans à New York avant d'imaginer ce roman où un chauffeur noir raconte son quotidien qui consiste à véhiculer une famille de blancs. Et elle a réussi à intéresser l'agent littéraire de Jonathan Franzen, que les médias américains considèrent comme le plus grand écrivain américain vivant. Donc cet agent, qui est une femme très influente, elle s'appelle Suzanne Golomb, elle est emballée par le livre d'Imbolo, elle le fait savoir, et sa voix porte énormément.
Vous savez que Sabine Weiss a aussi eu ses grandes heures américaines. Hein. D'ailleurs, on dit que ce sont vraiment les États-Unis qui vous ont découverte et que c'est de là qu'est venue la reconnaissance. Mais peut-être que cette histoire-là aussi est un peu améliorée, Sabine Weiss.
C'est-à-dire que quand j'ai voulu quitter Genève, une cousine m'a dit « Mais va donc à New York, je connais quelqu'un qui s'occupe de photos ». J'ai évidemment pas été à New York, je savais pas l'anglais, je n'avais absolument pas d'argent pour rien. À l'époque, heureusement, on vivait avec rien, on avait très peu d'habits, très peu de choses. Mais quand je suis entrée à l'agence RAFO, on m'a dit on va vous présenter notre partenaire qui était Charles Radeau, qui avait fait RAFO. Et ce monsieur Radeau avait été psychanalysé par mon oncle et aimait beaucoup ma cousine. Et j'ai eu une relation, et mon mari également avec moi. Nous avons une relation avec ce Charles Radeau formidable. Et comme il était très très bien avec toutes les agences, toutes les revues américaines, j'ai travaillé énormément pour les États-Unis. Toutes les revues américaines, je les avais tout à fait régulièrement dans ma vie.
Alors voilà, comme vous, il y a aujourd'hui Imbolo Mbue, encore un véritable conte de fées américain finalement, François Véan.
Oui, tout à fait. Alors à chaque fois, on se dit mais c'est l'Amérique de tous les possibles. Il y a des auteurs comme ça sur lesquels les éditeurs misent 1 million de dollars. Alors pour essayer de comprendre, il faut se dire que ce qui fait grimper les enchères aujourd'hui, c'est la concurrence entre les éditeurs américains et les grands studios de cinéma, qui sont prêts eux aussi à mettre beaucoup d'argent quand ils pensent tenir une histoire qui va faire un très bon film. Et puis il y a cette mode aux États-Unis qui consiste à publier des gros romans de 1000 pages, et ça n'a fait que s'amplifier avec le succès phénoménal de Donatarte.
Et c'est la concurrence qui fait que ça intéresse aussi les éditeurs français ?
Oui, et puis aussi, si vous voulez, il y a une notion quand même de qualité, d'écriture, de travail très poussé, parce que ces livres sont le résultat de 10 ans de travail pour certains. Il y a une discipline extraordinaire, et puis en plus on se coltine avec la littérature du réel. Là, Imbolo, elle nous parle d'immigration, de racisme, de crise financière. On n'est pas avec certains auteurs français qui sont dans la littérature de l'ego et qui développent leurs petites histoires intimes.
Allez, vous nous avez dit 2 expositions, François V, je vous en accorde qu'une. L'autre sera retrouvée dans les pages du Parisien Magazine.
Absolument. Alors, je vais privilégier à la Fondation Cartier à Paris une exposition très singulière, très surprenante, qui peut se visiter en famille. Elle s'intitule, figurez-vous, Le Grand Orchestre des Animaux. Et là, sont réunies des toiles qui représentent toutes sortes de bêtes, plus ou moins terribles, ainsi que des photos. Et puis, on peut y écouter des enregistrements et des cris de toutes sortes d'espèces. Et là, je vous recommande en particulier des œuvres de peintres du Congo, comme Moquet, et puis comme Pierre Baudot, qui a peint 6 hommes oiseaux jouant de la musique, habillés comme des sapeurs. C'est éclatant de couleurs et de vie, tout simplement.
Et ça donne envie d'aller la voir. Un grand merci, François. Et merci beaucoup, Sabine Weiss, d'être passée par notre studio. Merci.
Merci de m'avoir reçue.
Toutes les références de vos expositions et de vos rencontres, parce que vous serez également au Jeu de Paume, sont à retrouver sur la page de La Grande Table sur franceculture.fr. Un grand merci.